France Inter. Bonsoir Eric Delvaux.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Avec à la une le dernier livre de Salman Rushdie, Le Couteau, en vente en France à partir de jeudi. Salman Rushdie, invité de la matinale demain sur Inter. Et dans quelques secondes, nous nous plongerons dans ce livre autobiographique que vient de lire Ilana Mor-Youssef. Une page d'histoire cet après-midi dans le Vercors. Emmanuel Macron a rendu hommage, un hommage inédit au maquis du Vercors. Nouvelle étape de ces commémorations pour les 80 ans de la libération. Nous serons à Vassieux en Vercors. À ce propos, je rappelle après le journal, le téléphone sonne, votre téléphone sonne, Christelle. Mmh. Et vos questions, les auditeurs, les auditrices, sur la transmission de la mémoire, 01 45 24 7000 ou bien sur WhatsApp. Dans ce journal également, l'opération PlaceNet à Mayotte, dans cette île de l'océan Indien qui devient aussi un champ de bataille politique nationale. Raphaël Glucksmann, ciblé par les fake news relayées par la Chine. Et puis nous nous demanderons si l'hydrogène est bien une solution fiable pour décarboner la France. Enfin, nous nous intéresserons à ce projet de série-fiction en 6 épisodes consacré à Brigitte Macron.
France Inter. C'est un livre autobiographique intitulé Le Couteau.
Signé Salman Rushdie donc. Il paraîtra jeudi en France. Et notez que Salman Rushdie sera donc demain l'invité exceptionnel sur France Inter dans la matinale à partir de 8h20. Un livre donc sur la dernière attaque qui a failli être fatale à l'écrivain américano-britannique il y a 2 ans. C'était près de New York. Un livre de mémoire sur sa lente convalescence, ses graves séquelles. Il a perdu un œil. Bonsoir Ilana Mor-Youssef.
Bonsoir.
Vous avez lu ce livre de Salman Rushdie, c'est donc le dernier épisode d'une vie passée sous la menace.
Oui, et 33 ans et demi après la fatwa de l'ayatollah Khomeini, Salman Rushdie a bien cru que sa dernière heure était arrivée. Pendant ces années, écrit-il, j'ai parfois imaginé mon assassin se lever de quelque assemblée publique et foncer vers moi exactement de cette façon. Aussi, ma première pensée quand je vis cette silhouette meurtrière se précipiter vers moi, ce fut « C'est donc toi, te voilà ». Ce qui est absolument fou, Eric, c'est qu'il raconte avoir fait, 2 jours avant l'attaque, un rêve prémonitoire et qu'il a hésité à honorer l'engagement qu'il avait pris de participer à cette manifestation publique. Il fait le récit étape par étape de la reconstruction et même s'il nous épargne certains détails, il en dit assez tout de même sur ses misères physiques pour qu'on imagine cette traversée de la douleur et comment ne pas penser à la lecture de ces pages au lambeau de Philippe Lançon.
Cela dit, Ilana, ce n'est pas qu'un livre, qu'un récit sur la douleur.
Absolument pas. En fait, le chapitre qui suit le récit de l'agression est consacré à sa rencontre avec son épouse Elisa, qui a traversé cette épreuve avec lui. C'est un livre placé sous le signe de l'amour, de la vie et de la littérature. Je vous propose d'écouter l'éditrice française de Salman Rushdie.
C'est un texte qui va faire date, qui va marquer son époque et qui va probablement rester comme un texte de référence sur la liberté d'expression. Ce qui m'a le plus frappé à la fin de ma lecture, c'est à quel point c'était un texte porteur d'espoir et de lumière, un texte de grande sérénité qui ne comporte pas de colère, qui ne comporte pas de désir de vengeance. C'est un artiste qui est conscient qu'il a eu une seconde chance tout à fait miraculeuse et qui veut simplement continuer à écrire.
Et après ce livre, donc étape nécessaire, il y en aura d'autres, le retour à la fiction.
Et à la fin de ce livre, je crois, il revient sur les lieux où il
exactement,
s'est écroulé, la salle est vide, et il a une certaine fierté d'y revenir vaillant. Le Couteau, donc réflexion suite à une tentative d'assassinat signée Salman Rushdie, en vente en France à partir de jeudi. Merci beaucoup Ilana Mor-Youssef. Salman Rushdie donc, qui sera demain l'invité exceptionnel de France Inter dans la matinale à partir de 8h20. C'est fait, Isabelle Saporta n'est plus la présidente des éditions Fayard. Elle a été licenciée comme prévu à cause d'un différend stratégique, explique le groupe Hachette qui appartient à Vincent Bolloré. Ce licenciement est lié à l'arrivée dans le groupe de Lise Boel, l'éditrice qui a fait les succès en librairie d'Éric Zemmour. Vincent Bolloré est accusé par de nombreux rivaux de vouloir se servir de ces maisons d'édition pour promouvoir un projet politique très à droite, ce dont se défend le PDG. Changement de direction également à la tête de la Scala de Milan. Le français Dominique Meyer, 68 ans, en poste depuis près de 4 ans, et il est remplacé par Fortunato Ortombina, l'actuel directeur de la Fenice de Venise. Sa candidature a été poussée par le gouvernement Meloni. Et puis le créateur de mode italien Roberto Cavalli est mort. Il a été le couturier de la jet set pendant des décennies avec ses pots de piton. et aussi ses imprimés flamboyants. Il avait 83 ans.
France Inter. Éric Delvaux.
L'oubli est réparé aujourd'hui à Vassieux en Vercors. 80 ans après, c'est la première fois qu'un président en exercice, Emmanuel Macron, a participé à une cérémonie d'hommage aux résistants et aux civils morts en 1944 dans ce village de la Drôme. Le général de Gaulle n'y avait fait qu'une halte en 1963. Des villageois tués, d'abord par la milice française, puis massacrés lors d'une attaque de l'armée nazie. Il y a un temps où les Français n'aimaient pas la France, a dit Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les noms ont été lus des 73 villageois tués par la Wehrmacht en 44. Le maire de Vassieux en Vercors, Thomas Ottenheimer, attendait ce moment depuis longtemps.
Vous, les plus jeunes, présents ici, retenez qu'un jour, le président de la République est venu à Vassieux, village où certains d'entre vous grandissent, parce que Vassieux fut détruit par la guerre et la folie des hommes. Comprenez que si nous sommes réunis ici, c'est pour ne pas oublier et pour éviter que tout cela recommence. Aujourd'hui, ce sont nous, les adultes, qui essayons de vous faire vivre dans un monde libre, d'égalité et fraternel. Demain, ce sera votre tour. Retenez que, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs de peau, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos opinions, nous devons vivre ensemble. Nous le devons à la France. Alors, vivez ensemble dans la tolérance, la bienveillance, le respect et la fraternité, pour que plus jamais nous n'ayons à graver nos noms sur un martyrologe.
Voilà, au micro de Simon Le Baron, le maire de Vassieux en Vercors, s'adressant aux enfants pour la transmission de la mémoire. Ce sera d'ailleurs le thème de votre téléphone sonne, Christelle, juste après ce journal, la transmission de la mémoire. Retenez aussi que la Russie sera bien invitée début juin aux célébrations du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie, mais pas son président Vladimir Poutine en raison de la guerre en Ukraine.
On attend ce soir un premier bilan de la nouvelle opération à Mayotte contre l'insécurité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre.
Oui, pendant 11 semaines, 1700 policiers et gendarmes vont être mobilisés sur cette île de l'océan Indien. Marine Le Pen y est attendue ce week-end. Puis dans 15 jours, ce sera au tour de Marie Guévenoux, la ministre déléguée en charge des Outre-mer. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Mayotte devient aussi un champ de bataille de politique nationale.
Oui, à deux mois des élections européennes, c'est un face-à-face qui semble se jouer à Mayotte. L'exécutif se sert des gendarmes pour faire sa com et pour brouiller notre message, accuse l'eurodéputé RN André Rouget. On ne prépare pas des opérations de ce calibre selon l'agenda de Madame Le Pen, rétorque un conseiller ministériel. L'enjeu politique existe lui bel et bien. Le FN, devenu RN, a connu sur l'archipel une ascension fulgurante. Moins de 3% des voix en 2012, 59% au premier tour de 2022. Un électorat que le Rassemblement National soigne. 7 déplacements à Mayotte pour Marine Le Pen et à longueur d'interview, la critique d'un gouvernement impuissant face à l'immigration et à l'insécurité. Alors pour l'exécutif, désormais, l'heure est à la riposte. Nouvelle ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux s'est déjà rendue 3 fois sur l'archipel et ses conseillers vantent à qui veut l'entendre le bilan sécuritaire. Un gendarme désormais pour 350 Mahorais. Et puis, il y a la fin du droit du sol. La proposition historique du RN est désormais portée par Gérald Darmanin qui espère ainsi couper l'attractivité de l'île, couper aussi l'herbe sous le pied du parti lepéniste.
Élodie Forêt, il n'y a pas que les Russes qui pratiquent la désinformation à grande échelle en envoyant massivement des fake news, des infox dans les pays étrangers en campagne électorale. La Chine également pratique cette méthode. En France en ce moment, c'est Raphaël Glucksmann qui en fait les frais. Il a été averti par l'organisme français qui dépend du gouvernement, la Viginum, qui a repéré que la tête de liste PS et place publique pour les Européens était ciblée par la Chine. Bonsoir Manon Derdevet.
Bonsoir.
Pékin relaie massivement en ce moment des rumeurs concernant Raphaël Glucksmann.
Oui, d'après Viginum, ces comptes qui seraient liés à la Chine mèneraient une campagne de désinformation parmi les fausses informations véhiculées, celle selon laquelle l'eurodéputé serait le cheval de Troie des Américains en Europe et notamment lié à la CIA. Éric Andrieux est le directeur de campagne de la liste Réveiller l'Europe, conduite par Raphaël Glucksmann.
Raphaël est le seul candidat qui a le courage de dénoncer depuis plus de 20 ans les dictatures qui œuvrent à la déstabilisation de nos démocraties. Il a été le président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères. Donc la question pour nous, c'était pas de savoir si nous serions attaqués. mais c'est de savoir à quel moment dans la campagne nous serons attaqués. Ce que je veux dire avec force, c'est que, un, il n'est pas question de se laisser déstabiliser. Deux, c'est que nous sommes vraiment fiers des combats que nous portons à ce sujet.
Raphaël Glucksmann, effectivement connu pour son engagement pour la défense de la minorité musulmane ouïghour et qui avait déjà décidé en janvier dernier de quitter TikTok justement pour dénoncer les failles de sécurité dans le réseau social chinois. Selon un sondage Ipsos pour Radio France publié samedi dernier, le candidat PS Place Publique récolterait 13% des suffrages à 2 mois des élections européennes. Son équipe se dit prête à faire face à d'autres campagnes de désinformation d'ici là.
Plusieurs responsables de gauche veulent légiférer pour limiter le salaire des grands patrons. C'est la suite de la polémique sur la rémunération de Carlos Tavares, le patron du constructeur automobile Stellantis. Aujourd'hui, sans surprise, les actionnaires de Stellantis réunis au siège social d'Amsterdam ont approuvé les 36,5 millions d'euros pour Carlos Tavares. De l'hydrogène pour décarboner la France, de l'hydrogène dans les voitures, les camions, les avions, les usines aussi. Le gouvernement réfléchit à des investissements stratégiques. Et voilà que 50 étudiants d'écoles d'ingénieurs ou d'universités ont réfléchi à la question. Et c'est en ce moment qu'ils remettent leurs conclusions au ministre Roland Lescure. La cérémonie est baptisée Convention scientifique hydrogène. Elle a donc lieu en ce moment à Bercy. Célia Kiré, ces étudiants disent oui à l'hydrogène, mais selon les cas.
Parmi leurs 28 recommandations, certaines sont très claires. Il ne faut pas miser sur l'hydrogène pour la voiture individuelle. Ce serait du gaspillage, la batterie électrique suffit. Non, la priorité doit être donnée aux usines pour décarboner les cimenteries ou la sidérurgie, affirme sans hésiter Emmanuel Girard, étudiante en électrochimie en école d'ingénieur à Grenoble.
C'est vraiment l'industrie qui est largement prioritaire parce que notamment, elle est stationnaire, elle ne bouge pas entre guillemets. On vient mettre notre hydrogène à côté de notre usine. Et là, on peut décarboner. Alors que quand on parle de transport, l'hydrogène est contenu dans un réservoir ou ce genre de choses, ce qui rend l'usage plus complexe, quoi. C'est parce qu'on ne peut pas produire assez d'hydrogène qu'on doit prioriser les usages.
Et concernant les transports, l'hydrogène peut servir à fabriquer des carburants de synthèse pour les bateaux, les camions ou les avions, mais avec modération. Hugo Magot est aussi étudiant à Grenoble et membre de cette convention scientifique.
Quand on regarde le maritime, qui est un gros secteur à décarboner, là c'est une question sociale. Est-ce qu'on veut privilégier l'avion au bateau, qu'est-ce qu'on veut transporter, des personnes ou des biens? Dans le rapport, ça a été choisi comme ça. On a voulu mettre en avant le transport maritime international.
Et ces étudiants veulent que le gouvernement l'entende. La clé, c'est la sobriété. L'hydrogène produit à base d'électricité verte ou décarbonée n'est pas infini non plus.
Célia Kiré. Israël promet une riposte à l'Iran sans dire ni quand, ni où, ni les contours de cette riposte. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé la communauté internationale à rester unie face à l'agression iranienne, dit-il. Quant aux Israéliens, Alice Froussard, eh bien, ils s'interrogent sur le bien fondé de cette riposte.
En Israël, rien n'a changé, tout est revenu à la normale. Cette Israélienne, Ayala, a eu peur seulement dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu'elle a vu cette pluie de missiles et de drones dans le ciel.
Nous sommes surtout très heureux de l'alliance qui nous a aidés, ce qui fait que la plupart des missiles ne sont pas arrivés en Israël. On espère que tout cela cessera bientôt.
Elle n'a pas vraiment d'avis sur ce que son gouvernement devrait faire. D'après le dernier sondage de l'Université hébraïque de Jérusalem, 52% des Israéliens pensent que le pays devrait retenir le feu. Une toute petite majorité, les autres, comme Gal, estiment qu'Israël doit répondre à la réponse de l'Iran.
Israël doit montrer que c'est un pays fort, que des attaques comme celle-ci ne peuvent pas passer sans réponse. Nous ne pouvons pas être le punching ball de tout le monde.
Le gouvernement israélien se serait engagé à prévenir les États-Unis avant de lancer une attaque. Reste à savoir quand, où et de quelle ampleur.
Israël, Iran, Vladimir Poutine pense pouvoir faire revenir les deux parties à la retenue. Le président russe a eu un entretien téléphonique aujourd'hui avec son homologue iranien Ebrahim Raisi pour le mettre en garde contre les conséquences de toute nouvelle escalade. Il faut dire, Sylvain Tronchet, vous êtes à Moscou, qu'une guerre Iran-Israël serait à la fois une opportunité mais aussi un souci pour Moscou.
Pour Moscou, ce nouveau regain de tension au Proche-Orient présente des risques. Vladimir Poutine l'a dit à son homologue iranien, Ebrahim Raisi, aujourd'hui. Mais même s'il ne le dit pas officiellement, le Kremlin sait aussi que c'est une opportunité. Le risque d'un embrasement dans la région constitue, comme les attaques terroristes du 7 octobre, une diversion. Diversion de l'attention de la communauté internationale qui regarde moins ce qui se passe en Ukraine. Diversion des moyens aussi, quand les États-Unis doivent également armer leur allié israélien. Vladimir Poutine appelle donc à la retenue, les deux parties, tout en sachant quels bénéfices il peut retirer de la situation. Ceci dit, Moscou n'a pas non plus intérêt à un conflit ouvert qui affaiblirait son allié iranien. L'Iran est devenu un fournisseur d'armes, de drones, de missiles essentiels pour la Russie, pour sa guerre en Ukraine. Et il ne faudrait pas non plus que Téhéran cesse ses exportations pour les garder pour son usage personnel. Moscou marche donc sur un fil, avec une ligne de conduite toujours la même, attribuée aux États-Unis la responsabilité entière de tous les problèmes de la région. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
À Bruxelles, une réunion d'élus et de responsables nationalistes, dont Nigel Farage, Viktor Orban ou encore Éric Zemmour. Cette réunion était prévue aujourd'hui à Bruxelles, à l'approche des élections européennes. Eh bien, elle est interdite par les autorités bruxelloises. Une interdiction inacceptable, selon le Premier ministre belge. Un autre Premier ministre conservateur britannique, Rishi Sunak, y voit, lui, une décision extrêmement inquiétante. En Grèce, aujourd'hui, allumait le feu, sauf que le ciel était trop couvert ce matin. Au-dessus du site de l'Olympie, ce n'est donc pas la parabole solaire qui a enflammé la torche olympique. Il a fallu faire un plan B, le premier plan B de ces JO. Le feu sacré est arrivé par une urne, avec un vent en prime ce matin qui faisait craindre décidément pour cette flamme. L'esprit de paix durant les JO, Moscou n'est pas très enthousiaste à l'idée d'Emmanuel Macron de faire respecter une trêve durant ces JO. Pas très chaud, les Russes. Ils craignent de voir les Ukrainiens en profiter pour se réarmer et essayer de se regrouper. C'est ce que rétorque aujourd'hui le porte-parole du Kremlin. Eh bien, 101 jours donc avant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, les équipes de France masculine et féminine de handball connaissent depuis quelques minutes leurs adversaires pour le tournoi olympique. Le tirage au sort vient de se terminer à la maison du handball de Créteil. Jean-Pierre Blimaud, vous êtes sur place, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Quels seront les adversaires donc des tricolores ?
Eh bien, on retient dans le groupe de la France masculine l'équipe du Danemark, la Norvège, la Hongrie, l'Égypte et l'Argentine. Et pour les filles, ce sera peut-être un petit peu moins relevé avec la Hongrie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Brésil et l'Angola. Il faut savoir, Eric, que le handball est ainsi fait que le pays organisateur, c'est le cas aussi en championnat du monde, peut choisir dans quel groupe il va évoluer. Alors, les choix ont été inverses pour le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Il a choisi de ne pas être dans le groupe de la Norvège, le meilleur adversaire des Français dernièrement, les Norvégiennes qui avaient perdu en finale du dernier championnat du monde face aux Françaises. Olivier Campbell s'est dit on va les laisser se fatiguer dans notre groupe et on va les retrouver peut-être plus tard. Et puis chez les hommes, choix inverse, le Danemark est dans le groupe de la France. Guillaume Gilles, le sélectionneur, l'a assumé. La France donc va commencer avec le groupe le plus relevé des deux dans la compétition masculine.
Jean-Pierre Blimaud, et puis on a appris aujourd'hui également que la France et l'Allemagne allaient co-organiser le championnat du monde masculin en 2029. On n'avait pas vu ça depuis 2017. Avec notamment le match d'ouverture, les demi-finales et la finale qui auront lieu à Paris. Vous avez aimé le biopic sur Bernadette Chirac, peut-être vous précipiterez-vous sur la future série fiction consacrée à Brigitte Macron. Bonsoir Fanny Imbert.
Bonsoir.
Le projet est en écriture à la Gaumont et il devrait déboucher sur 6 épisodes de 45 minutes.
Brigitte, une femme libre, c'est le titre de cette série. De son métier de professeur de lettres à sa rencontre avec son élève Emmanuel, 15 ans, dans un lycée d'Amiens, jusqu'au palais de l'Élysée, le parcours romanesque de Brigitte Macron intrigue et suscite les plus folles rumeurs. Nous ne sommes pas associés à ce projet, assure de son côté l'entourage de la première dame à l'AFP. Le scénario est signé Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, co-auteurs des séries Mirage et J'ai menti, produites par France 2. La série prendra-t-elle autant de liberté que le dernier biopic consacré à une première dame, celui qui revenait non sans humour sur la vie de Bernadette Chirac, sortie l'année dernière avec Catherine Deneuve, ou bien sera-t-il plus proche du docu-fiction ? On n'en dit pas plus du côté de Gaumont, qui n'annonce pour le moment ni diffuseur, ni date de sortie, ni casting, mais qui promet d'en dévoiler davantage dans les prochaines semaines.
Brigitte, une femme libre, c'est donc le titre de cette série fiction en préparation. Merci Fanny Humbert. Christelle, ça risque de nous prendre 6 fois 45 minutes si on veut suivre ça.
C'est bien possible, ça dépend du ton. Hein. Ou alors ça va prendre 2 minutes, ça va être vite réglé. Merci Eric, à demain, le temps de votre mercredi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Sébastien Léas, le temps sera encore instable demain.
Oui, on prend les mêmes et on recommence. La journée de demain sera à nouveau émaillée d'averses sur les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur les Pyrénées. La limite plus neige se situera vers 700-900 mètres d'altitude en général, plutôt vers 1300-1500 mètres sur les Pyrénées. Les averses se développeront dès le matin, mais elles seront plus marquées l'après-midi avec des risques d'orage, voire de grésil. Sur la Corse et entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et les plaines du Sud-Ouest, les averses seront plus localisées. La matinée sera même plutôt calme et assez ensoleillé. Le ciel sera encore plus dégagé sur le pourtour méditerranéen sous l'impulsion du Mistral et de la Tramontane qui seront encore soutenus mais quand même moins violents qu'aujourd'hui.
Et l'ambiance sera toujours fraîche.
Oui, la fraîcheur s'est installée et va perdurer jusqu'à au moins le milieu de semaine prochaine. L'après-midi de demain sera d'ailleurs un des après-midi les plus frais de la séquence au niveau national, les maximales étant le plus souvent 3 à 6 degrés sous les valeurs de saison. On attend seulement 8 degrés à Épinal et Annecy, 9 degrés pour Saint-Étienne, Boulogne-sur-Mer et Colmar, 10 degrés à Besançon, Beauvais et Évreux. Prévoyez 12 degrés à Paris et Angers, 13 degrés à Lorient, 14 degrés à Montélimar et Limoges, 15 pour Biarritz, 16 à Agen, 17 à Nîmes et 18 degrés pour Ajaccio, Toulon et Perpignan.
On a compris, on se couvre demain matin. Merci Sébastien.